Bonjour et bienvenue à tous. Nous continuons notre série d'émissions sur les vertus et les vices dans la vie chrétienne. Nous avons commencé avec les vertus cardinales, ces vertus autour desquelles gravitent toutes les autres vertus, à savoir la prudence, la justice, la force. Et aujourd'hui, nous allons voir la quatrième, la tempérance. Tempérer veut dire mélanger dans la bonne proportion. Étymologiquement, tempérer veut dire mélanger dans la bonne proportion. C'est un peu comme le mot grec pharmakon, qui a donné le mot pharmacie, bien sûr, le médicament, qui peut être à la fois le médicament ou le poison. La différence, c'est la dose. Vous savez, les philosophes grecs parlaient déjà. Regardez comment un médicament peut guérir, mais il peut aussi empoisonner s'il n'est pas pris dans la bonne proportion, à la bonne dose. Mais tempérer veut dire aussi assaisonner pour que ce ne soit ni insipide ni immangeable par excès d'assaisonnement. La tempérance donc, en voyant cette origine étymologique, la tempérance est donc la modération, le juste milieu qui n'est possible que grâce à la maîtrise de soi, c'est-à-dire la capacité à se retenir. Concrètement, cela veut dire que pour certaines choses, pour certaines réalités, nous sommes radicaux. Par exemple, notre option pour Jésus-Christ. Il n'y a pas de juste milieu. Nous aimons Jésus-Christ de tout notre cœur, nous croyons en lui, et donc c'est incompatible avec beaucoup d'autres choses. On ne peut pas adorer le Christ et les idoles à la fois, bien entendu. Donc pour la foi, pour notre amour à Jésus-Christ, il n'est pas question de juste milieu. Nous avons une option fondamentale qui nous engage, qui engage notre être tout entier. Mais pour d'autres choses, on cherche le juste milieu. C'est d'ailleurs le concept même des vertus. Si nous allons voir depuis l'Antiquité le concept de vertu, de ces bonnes habitudes que nous avons acquises à force de poser des bonnes actions, comme nous avons dit depuis la première émission, cette vertu est souvent définie comme le juste milieu. Mais quelles sont ces choses dont on cherche le juste milieu? Il faut savoir d'abord que l'homme est un être de pulsion, d'impulsion, d'appétit sensible. Attention, ça ne veut pas dire que l'homme est un être d'instinct. Non, nous n'agissons pas par instinct comme les animaux. Pas du tout, parce que nous pouvons contrôler ces pulsions si nous voulons. Un animal ne peut pas contrôler son instinct. Il le pousse aveuglément à agir de telle ou telle façon. Nous, non. Nous avons des pulsions à l'intérieur de nous. Nous avons cet élan de vie, mais nous pouvons les contrôler. Nous pouvons chercher là le juste milieu. C'est-à-dire que tout ce qui a à faire aux plaisirs les plus naturels, tout ce qui sert à conserver la vie et l'espèce, manger, boire, la procréation, donc le plaisir sexuel, toute cette recherche de gratification, il faut les dompter, les équilibrer par la raison, bien sûr éclairée dans notre cas chrétien par la parole de Dieu. Aujourd'hui, comme pour les autres vertus, le mot tempérance n'est plus utilisé. Nous avons vu pour la prudence, il peut même changer de sens, nous avons vu la même chose pour la force. Aujourd'hui, on parlerait plutôt, pour parler de la même réalité de la tempérance, on parle plutôt d'hygiène de vie, de modération, d'équilibre. Dans le langage d'Église, elle peut prendre aussi d'autres noms, selon la pulsion qu'elle contrôle, qu'elle équilibre. Quand on parle de manger, on parle de tempérance, proprement dite, mais on parle de sobriété pour ce qui est du boire, de la boisson. On parle de chasteté selon l'état de vie pour ce qui est de la sexualité. Mais on peut aussi étendre cette tempérance à la langue, par exemple, mettre un frein à sa langue. Nous allons trouver dans la parole de Dieu, équilibrer notre parole. Est-ce qu'on parle trop ou est-ce qu'on ne parle pas assez? Notre sommeil, les extrêmes étant bien sûr faire des siestes trop longues ou ne pas dormir assez. Quand on regarde des films, on lit des livres, on parle avec d'autres personnes et on ne veille pas sur notre temps de sommeil, on ne dort pas assez. Le jeu et toutes sortes d'amusements, Internet, les séries, l'utilisation du portable, les jeux vidéo pour les plus jeunes, les blagues, les plaisanteries, là aussi il y a un équilibre. On ne peut pas plaisanter tout le temps, mais on ne peut pas vivre dans une amertume non plus, vous voyez ? C'est-à-dire que le chrétien met du sel partout. Il met un grain de sel partout. Il donne la juste mesure pour donner de la saveur. Pour bien comprendre ce qu'est la tempérance, il faut toujours penser aux extrêmes. dans le cas du manger. Trop manger d'un côté, bien sûr, on se sent mal après. Ne pas trop manger, ça peut amener même à des déficiences, à l'anorexie, à des manques. Travailler trop ou ne pas travailler assez. Ne jamais se reposer, ne faire que travailler. On sait que très vite, on va être épuisé. Mais ne faire que ça, ne faire que se reposer, nous sommes tous d'accord que ça ne va pas non plus. Donc, mes frères, la tempérance se caractérise par l'équilibre en tout ce que nous faisons, en tout ce que notre corps et notre âme demandent. Voilà mes frères pour la tempérance qui est l'équilibre. Mais bien qu'elle soit l'équilibre, on acquiert cet équilibre, cette vertu, par la mortification, c'est-à-dire en se privant un petit peu, en renonçant à quelque chose. Je sais que le mot mortification aujourd'hui peut sembler un peu bizarre, on ne comprend plus, mais c'est tout simplement le renoncement, même des bonnes choses. Car bien sûr, le renoncement des mauvaises choses, le renoncement du péché est déjà escompté. Ici, on parle de choses saines. Et le renoncement des bonnes choses exige une discipline. Cette discipline, c'est l'éducation de la volonté, qui parfois est malade, notre volonté parfois est malade, et veut avoir toutes ses envies et tous ses caprices. Pensez par exemple à la discipline des militaires ou des athlètes, on va en parler un petit peu tout à l'heure, la discipline des athlètes du haut niveau, ou alors à tous ceux qui se préparent en concours. Par exemple, ceux qui se préparent à passer en concours doivent étudier, avoir une discipline, étudier tant d'heures par jour, se reposer, bien manger, etc., bien dormir pour pouvoir réussir son concours. Il y a une discipline en vue d'un but. Pour cela, la sagesse de l'Église a toujours parlé de mortification, de renoncement, surtout en carême, surtout pendant tous les vendredis de l'année, mais aussi à chaque fois que l'on juge nécessaire. Le jeûne, ça veut dire sauter un repas dans la journée, n'importe lequel. L'abstinence, ça veut dire se priver de telle ou telle nourriture, de la viande, de l'alcool, du fromage, du dessert. Se lever dans la nuit pour prier, c'est aussi un renoncement. Couper le sommeil en deux, c'est pas facile. Et pourtant, c'est fructueux. Souffrir un petit peu, le froid ou le chaud, c'est pas des choses exagérées. On n'est pas dans une ascèse qui nuit à notre santé, pas du tout. Mais c'est renoncer à de petites bonnes choses pour pouvoir éduquer notre volonté et notre corps. Quand le corps te demande « j'ai trop chaud », je dis « non ». Tu supportes encore un petit peu, 5 minutes, pas plus. L'eau est trop froide, mais tu peux supporter encore 2 minutes. Par exemple, j'ai encore sommeil. Non, je me lève à l'heure précise. Tout ça nous aide à entrer dans une discipline qui éduque, qui mate nos passions. Au fond, c'est dire non aux petites choses en vue des grandes qui aujourd'hui peut-être nous échappent. Peut-être que de grandes choses aujourd'hui nous échappent si on éduque notre volonté petit à petit, comme disait Saint François d'Assise, qui disait qu'il faut traiter son corps comme on traite un âne, par exemple, en donnant des coups. Et l'alternative est claire, mes frères. Soit on domine nos passions, soit on est dominé par elles. La question des fonds est celle de la liberté. On pense aujourd'hui qu'être libre, c'est faire tout ce dont on a envie, du moment où il n'y a pas de contraintes extérieures. Mais ça, c'est précisément être esclave de ses envies, de ses pulsions. Imagine-toi si tu dormais à chaque fois que tu en avais envie, en disant que tu es libre, de toute façon, j'ai envie de dormir, je vais dormir. Plus personne ne travaillerait, n'étudierait, etc. Être libre, c'est quand ta volonté fait ce que ta raison a reconnu comme important, même si tu n'en as pas envie. Du moment où tu as reconnu que c'est important, que c'est important de le faire, que c'est ton devoir de le faire, que c'est juste, alors tu l'accomplis librement, même si tu n'en as pas envie. Bien sûr, tu n'es pas non plus contraint de le faire, tu sais que c'est important, et pour cela tu veux le faire, tu es bien libre, tu veux le faire librement. Voilà, mes frères, par exemple, nous sommes habitués dans le monde quotidien, dans nos familles, une maman qui se lève la nuit pour son enfant, peut-être qu'elle n'avait pas envie de se lever, mais elle sait qu'elle doit le faire pour le bien de son petit, par amour envers son petit. Maintenant, écoutons un peu la parole de Dieu qui nous éclaire toujours. Je vais vous lire deux extraits de la parole de Dieu, le premier de l'Ancien Testament, du livre du Siracide, connu aussi sous le nom d'Ecclésiastique. « Ne te laisse pas entraîner par tes passions », c'est au chapitre 18, « et refraine tes désirs. Si tu t'accordes la satisfaction de tes appétits, tu fais la risée de tes ennemis. Ne te complais pas dans une existence voluptueuse, ne t'oblige pas à en faire les frais. Ne t'appauvris pas en festoyant avec de l'argent emprunté quand tu n'as pas un sou dans ta bourse, car ce serait machiner contre ta propre vie. Un ouvrier buveur ne sera jamais riche, qui méprise les riens, peu à peu s'appauvrit. Le vin et les femmes pervertissent les hommes sensés, qui fréquentent les prostituées, perdent toute pudeur. » Voilà, mes frères, des paroles sur la tempérance. Je continue. « Mon fils, pendant ta vie, éprouve ton tempérament. Vois ce qui t'est contraire et ne te l'accorde pas, car tout ne convient pas à tous. » Et tout le monde ne se trouve pas bien de tout. Ne sois pas gourmand de toute friandise et ne te jette pas sur la nourriture, car trop manger est malsain et l'intempérance provoque les coliques. Beaucoup sont morts pour avoir trop mangé, celui qui se surveille prolonge sa vie. Voilà des exemples des tempérances dans les manger, dans les parler, dans nos relations interpersonnelles. Et je vous lis un dernier extrait de Saint Paul de la première lettre aux Corinthiens au chapitre 9. Ne savez-vous pas que dans les courses du stade, tous courent, mais un seul obtient le prix? Courez donc de manière à le remporter. Tout athlète se prive de tout, mais eux, c'est pour obtenir une couronne périssable, nous, une impérissable. Et c'est bien ainsi que je cours, moi, non à l'aventure. C'est ainsi que je fais du pugilat sans frapper dans les vides. Je meurtris mon corps, au contraire, et le traîne en esclavage, de peur qu'après avoir été celui qui proclame aux autres, je ne sois moi-même disqualifié. Vous voyez le langage de l'athlétisme, du sport que Saint Paul utilise. Il dit « Je prêche aux autres, mais moi je peux être disqualifié de la course si je ne lutte pas avec eux. » Et il dit « Je ne lutte pas dans les vides, je ne donne pas de coups de poing dans les vides comme du pugilat. Non, je meurtris mon propre corps. » C'est-à-dire, il faut bien entendre ici, hein, évidemment, il faut prendre soin de sa santé, c'est nécessaire. Mais il dit ici, pour ses envies, pour les pulsions que nous avons à l'intérieur de nous. Donc cette motivation qui peut amener à la discipline, qui amène à la tempérance, pour le monde, la motivation peut être la mode. Beaucoup se privent du manger pour pouvoir utiliser les vêtements à la mode, par exemple. Ou alors la santé à tout prix. Il faut avoir la santé à tout prix. Pour nous, la règle suprême, l'âme de toute vertu, c'est la charité, c'est l'amour. L'amour envers Dieu, l'amour envers le prochain et l'amour envers nous-mêmes. Par amour envers mes enfants, par exemple, je peux me priver de sommeil, comme je disais tout à l'heure. Par amour à mon corps, qui est temple de l'Esprit-Saint, je prends soin de ma santé, je veille sur ma santé. Mais, bien sûr, il y a toujours l'amour qui donne la règle de cette discipline. Voyons un peu la relation de cette vertu avec les autres vertus cardinales, comme on a toujours fait. La tempérance, donc, nous donne la force d'accomplir ce que la prudence a reconnu comme juste. C'est-à-dire que sur la base de la justice, ce qu'il faut faire, ce qu'on doit faire, la prudence réfléchit pour trouver quelle est la chose la plus juste à accomplir. Il faut la force pour pouvoir effectivement l'accomplir. Et pour avoir cette force d'âme, il faut éduquer notre volonté à travers la vertu de la tempérance. Tempérer pour tremper, dans le sens d'un acier de bonne trempe. il faut tempérer dans notre vie pour être un acier de bonne trempe, pour être assez fort pour accomplir le bien que la prudence a reconnu comme la chose la plus juste, la plus vraie à réaliser. Alors mes frères, pour ce qui est de la mortification, des renoncements, n'oublions jamais que la prudence, c'est-à-dire le discernement, est la guide de toute vertu. C'est-à-dire que la prudence va dire quand on est allé trop loin, en mettant par exemple en péril notre santé. Quand on dit qu'il faut renoncer à quelque chose, parfois jeûner comme on fait en carême, et la prudence va nous dire « attention, il y a un excès de jeûne, un excès de mortification, ça va nuire ta santé, ou trop peu de sommeil, on peut se priver de sommeil quelque temps pour se donner à la prière, pour éduquer notre volonté, pour vraiment forger notre caractère, et en même temps, nous savons très bien, si on dort trop peu, ensuite on ne va pas être très bien. » Et donc la prudence, le discernement nous dit toujours « attention ». Le juste milieu, même si on se prive de quelque chose de bon, il faut quand même tempérer là aussi, c'est-à-dire le faire dans la bonne et juste mesure.
Alors Père, ces quatre vertus, en fait, est-ce qu'elles sont d'une autre manière présentes dans le monde aujourd'hui ?
Oui, bien sûr, elles sont toujours présentes, car elles sont vitales à l'homme. Cette vertu, elles avaient déjà été reconnues, donc je rappelle, la prudence, la justice, la force et la tempérance, étaient déjà repérées par Platon, par Aristote, des philosophes grecs, païens. Elles étaient pour la première fois nommées telles quelles dans le livre de la sagesse, dans notre Bible chrétienne. Ensuite, nous avons vu pour le Nouveau Testament, et tout au long de l'histoire, elles vont toujours être présentes, car elles font partie de notre humanité, elles sont vitales à l'homme. Ce qui change, c'est le langage. Et c'est là qu'il faut faire attention, c'est très bien que le langage change, c'est naturel, c'est ni bien ni mal, c'est naturel, mais il faut voir si le contenu qui est derrière ne change pas. Par exemple, pour la prudence, nous avons vu dans l'émission sur la prudence que ce mot aujourd'hui est compris comme la précaution, comme avoir peur. Pas du tout, la prudence c'est le discernement. Et effectivement, dans les langages modernes, on dit toujours qu'il faut réfléchir avant d'agir. Je vais y réfléchir. Donc voilà que la prudence, la réflexion avant l'action, c'est une preuve de prudence aujourd'hui. Pour la justice, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Parce qu'aujourd'hui, on ne base pas notre réflexion, bon, pas tout le monde bien sûr, ne base pas sa réflexion sur ce qui est juste, mais plutôt sur ce qui est utile ou agréable. Et là, ça change complètement. Si je base mon action sur ce qui m'est utile, je risque d'écraser les autres. Si je base sur ce qui est agréable, je risque de faire beaucoup de mal à moi-même, aux autres, et bien sûr, à ne pas vivre selon la volonté de Dieu. Donc, il faut toujours baser sa réflexion sur ce qui est juste. Beaucoup aujourd'hui cherchent l'éthique, à vivre dans une déontologie, comme on dit aujourd'hui. Pourquoi pas ? Ça s'approche de la justice, pourvu qu'elle soit basée, bien sûr, sur cette loi naturelle que le Seigneur a inscrite en nous. Ensuite, pour la force, on continue à parler de force aujourd'hui. On parle souvent du courage, avoir du courage. Et on parle de mots qui sont à la mode, c'est l'endurance, bien sûr, et la résilience. Cette capacité d'avoir la résilience, c'est-à-dire de s'adapter, de sortir d'affaires, de s'en sortir et de toujours avancer, même avec les épreuves de la vie, sont un exemple de la vertu de force dans le langage actuel. Et pour la tempérance que nous venons de voir, nous avons déjà dit, mais je le répète pour faire une sorte de conclusion, c'est la maîtrise de soi, mais c'est aussi ce qu'on appelle aujourd'hui l'hygiène de vie, l'équilibre, la modération. Ce sont autant d'expressions qui montrent la tempérance, la recherche de la tempérance. Sauf qu'il ne faut pas oublier, comme je l'ai dit tout à l'heure, que pour nous la motivation, c'est toujours la charité et l'amour. Et la guide, celle qui va guider toute vertu, c'est toujours la prudence, le discernement qui va nous dire « là, on est allé trop loin ». Donc peut-être pour le monde d'aujourd'hui, ces vertus chrétiennes, même si on donne d'autres noms, quelque part, ce n'est pas grave, la question du langage. L'important, c'est que le contenu soit le même, parce qu'en sauvegardant le contenu, nous sauvegardons le dépôt de la foi que Jésus-Christ nous a transmis à travers son Église. Une bonne semaine à tous. Lucis tu.
Amen.